présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Vous n'avez pas de profession.
Oui.
Et vous vivez comment?
De choses et d'autres, d'affaires. J'aide les gens à se rencontrer.
À quoi faire?
Ben, à faire des rencontres pour les affaires.
Que Bissa se dit que ça doit être un escroc, un gigolo.
Il demande...
Vous avez vu, madame, Argès, la dernière fois, quand?
Il lui répond, ce matin très tôt, je ne voulais pas la voir partir, je n'aime pas les adieux, alors je suis parti avant son départ.
Tout ce qu'il dit est inscrit sur un ordinateur que l'autre inspecteur tape.
L'inspecteur lui demande,
Vous saviez qu'elle avait pris ses bijoux ?
Et lui dit, oui, je crois, j'ai pas fait attention.
L'inspecteur lui demande aussi, elle est partie seule ?
Je crois, elle devait avoir son chauffeur en tout cas, mais je ne sais pas, je suis pas vraiment sûr parce que je n'ai pas assisté à son départ.
L'inspecteur lui demande, et qu'avez-vous fait aujourd'hui ?
Il lui dit, oh, je me suis promené tristement et j'ai dormi ici une bonne partie de la journée. Elisabeth m'a dit que je pouvais rester ici durant son absence.
L'inspecteur lui dit, vous n'avez pas de témoin ?
Si, les domestiques.
Bien, nous allons vous laisser. Vous restez dans la maison ?
Oui.
Bien.
Ils se lèvent tous. François lui demande, vous avez une idée de ce qui lui est arrivé ?
Non, nous commençons tout juste l'enquête. Nous savons pas vraiment la route qu'elle a prise. Nous cherchons dans les environs. Ce n'est pas facile, mais si nous savons quelque chose, vous téléphonerez. D'ailleurs, il faut que nous nous revoyions au commissariat, disons demain, après-midi à 15h, 15e avenue. Est-ce que ça vous va ?
Non, ça va, merci monsieur le commissaire.
Il ramène le policier jusqu'à la sortie de la maison. Le commissaire se dit, bizarre. François se dit qu'il a qu'à bien se maîtriser et les choses iront bien.
Au revoir, messieurs.
Au revoir, monsieur.
Durant toute la soirée, le téléphone continue à sonner. On demande des nouvelles de François, comme s'il était le mari d'Elisabeth. C'est presque si on ne lui présente pas ses condoléances. Tony lui téléphone et lui demande,
tu ne souffres pas trop ?
François a envie de rire, il lui dit,
non. Pas trop.
Eddie est heureux. Il se dit qu'il va retrouver son François.
François, dans son lit, la nuit, il se demande comment il va faire pour plus tard.
Il va falloir sûrement qu'il quitte les lieux, mais pas tout de suite.
Le matin, il a pris sa voiture pour aller voir son ami Tony. Il roule en suivant la côte. Et voit si on ne le suit pas. Non, la route est vide, vide de voiture.
Alors il s'est arrêté et il a jeté dans la mer
les vêtements et la pelle. Arrivé chez Tony, il est heureux de le revoir. Il le reçoit dans son salon. François lui dit, toujours pas de nouvelles. Thomas lui dit, ça doit être terrible pour toi. Viens t'asseoir. Il le fait asseoir dans un fauteuil. Lui s'assoit en face de lui. Tony lui dit, on va la retrouver. La police cherche de partout. Tu comprends? On est obligé de faire les choses comme il faut. Le monde nous regarde. Il faut qu'on la retrouve. Il faut faire quelque chose. François lui dit, tu crois qu'on va la retrouver? Oui, sûrement. Tu veux boire quelque chose? Oui, quelque chose de fort. Du scotch? Oui. Tony se lève et va aller chercher la boisson. Fais le service. Tiens, bois. Merci. Fois qu'il ait fait le service, il s'assoit en face de lui. Ils boivent en silence. François demande, et si c'est la mafia qui a fait la chose? Denis lui dit, ça m'étonnerait. La mafia ne touche pas à ce genre de personne. Elle en fait son allié. François lui dit, avec tous les bijoux qu'elle avait, Tony lui dit. Oui, mais est-ce qu'ils étaient vraiment, enfin, ce qu'elle avait chez elle, est-ce qu'ils étaient vrais? Tout le monde parle des bijoux qu'elle a emportés, mais étaient-ils vrais? Ça lui dit, je ne sais pas. Elle ne me les a pas montrés. Moi, je ne sais pas. Ils avaient l'air beaux en tout cas. Mais la mafia peut croire qu'ils étaient vrais. Tony lui dit, la mafia est très renseignée. Et savent si c'est des vrais. Elle le sait. Et si c'est des vrais, Tony lui dit, il faut les écouler. Et comment des bijoux si célèbres? François lui dit, alors, si on vole par hasard des bijoux comme ça, on ne peut rien en faire, ça ne sert à rien. Tony lui dit, oui, sauf si on connaît une filière, connaît des clients très particuliers qui achètent des objets rares et très chers. Parce qu'ils sont connus. François lui demande, et les clients sont où? Tony lui dit, je ne sais pas, peut-être de partout. François lui dit, de toute façon, ça ne sert à rien de savoir, disons pas ce qu'elle est devenue. Tony lui dit, à moins qu'elle était prise pour la séquestrer. Comme ça, ils attendent la vente aux enchères. Une fois que la vente aux enchères est faite, ils se dévoilent et demandent l'argent de la vente.
pour qu'on la libère. Comme ça, ils ont l'argent de vente, sans perte, et même avec des bénéfices, parce que une vente de charité, les gens donnent plus que la valeur des bijoux. Argent facile, sans besoin de clients, ni de camoufler les bijoux en les transformant. François, et tout parle, tout parle. Ça ne va pas? Il vient de faire une grande connerie. Il a commis pour rien deux cadavres, deux conneries. Il aurait dû séquestrer la vieille et demander la rançon. Maintenant, il a deux cadavres et des bijoux dont il ne sait quoi en faire. Il se dit que le métier de mafieux, ça ne s'improvise pas. Que ça s'apprend. Il a agi comme un imbécile, presque comme un jeune de banlieue. Il risque de se faire prendre pour double meurtre et vol de bijoux. Et ses bijoux, que va-t-il en faire? De ses bijoux. Thomas lui dit, Tony lui dit, ça ne va pas. François lui dit, rien, si j'ai peur pour la pauvre Elisabeth, ne fais pas de soucis. Je ne crois pas que la mafia ait commis quelque contre elle quelque chose. Non, on ne touche pas une personne comme elle, comme je te l'ai expliqué. Mais nous verrons après la vente des bijoux.
François se dit, quel papier qui m'accuse du vol de la bague, pourvu qu'on ne le retrouve jamais. Lendemain après-midi, François va au commissariat. Le commissariat se trouve dans un immeuble de verre de 4 étages. Il va à l'accueil. C'est une grande pièce avec une banque où se trouve un policier en tenue. Il va vers le policier. Tiré, François lui dit, j'ai rendez-vous avec le commissaire qui s'occupe de la disparition de Madame Arigier. Le policier demande, n'est pas journaliste aussi? Non, parce que nous les faisons évacuer. Votre carte, s'il vous plaît. François lui donne sa carte. Il la met sur l'écran. Votre pouce. François le met sur l'écran. Bien. Il lui rend sa carte. Prend un téléphone et fait un numéro. Allô, monsieur le commissaire, c'est l'accueil. C'est une personne qui vient pour l'affaire Arigier. Monsieur François Ducourt. Bien, monsieur le commissaire. Il dit à François, il va venir vous chercher. François se retire. François est inquiet. Il se demande comment il va faire pour l'interrogatoire. L'ennuyeux, c'est qu'il n'a pas de travail. La police n'aime pas les gens qui ne travaillent pas. Ça ne fait pas sérieux et louche. Il faut toujours expliquer comment on vit. Et si une personne n'a pas trouvé le truc de vivre seulement du l'air du temps, on le mettra illico en prison. Il faut dire une occupation honnête ou malhonnête, mais quelque chose, n'importe quoi. Mais c'est difficile de dire quand on est un voleur, un assassin et même un monsieur bébé. Et puis, quoi ? Comme métier, être monsieur bébé, ça n'existe pas. Assassin, voleur, peintre, plombier, pute, banquier, artiste, mais monsieur bébé. Je suis un monsieur bébé et je vis de ça ? Trop de trucs. François se demande ce qu'il va dire à ce flic américain, sûrement de choc. Arrive vers lui un homme grand, fort, à cheveux et moustaches châtains, habillé d'un costume d'été gris froissé. Il lui dit :
Vous êtes monsieur Ducourt ?
Oui.
Je m'appelle l'inspecteur Haribor. Veuillez me suivre, monsieur.
François suit l'inspecteur qui le mène à l'étage. Il monte les escaliers de métal. Au premier, il le fait entrer dans une pièce qui doit être son bureau. Grande pièce blanche, store à moitié ouverte pour laisser passer le jour. La fenêtre est large, un ventilateur au plafond, meubles métal et formica blanc, table de bureau devant la fenêtre avec un ordinateur et un téléphone, armoire métallique à double porte, deux chaises métal devant le bureau, derrière le bureau un fauteuil de cuir. L'inspecteur lui dit :
Asseyez-vous, monsieur.
François va s'asseoir sur une chaise et l'inspecteur à son bureau. Or, ouvre son ordinateur.
Votre carte, s'il vous plaît.
François lui donne sa carte.
Merci.
L'homme la met sur l'écran et regarde les informations sur François. Il dit :
Tiens, vous êtes français. En France, vous n'avez jamais travaillé et pas de diplôme, pas de lieu fixe, des hôtels. Ah, originaire de Lyon, je ne connais pas. Tiens, votre carte a été faite sur ordre du ministre de la Justice. Pourquoi ? Bizarre.
Il regarde bien. Il regarde François et lui dit :
Alors, vous vivez de quoi, au fait ?
François lui dit : Je cherche à produire des films. L'inspecteur lui demande :
Quel argent ?
J'en cherche,
mais avant d'en avoir, comment vivez-vous ?
François lui dit : De mes amis qui m'hébergent. L'inspecteur lui dit :
Ah, c'est gentil ça. Et pourquoi ?
François lui dit : Parce qu'on m'aime bien, il croit en moi.
Vous en avez de la chance. Et à Paris aussi ?
François lui dit : Oui, et puis j'étais très jeune, mais à Paris, j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont aidé parce que j'étais un enfant seul.
L'inspecteur lui dit : Donc, pas de travail. Jamais travaillé. Vous vivez de ce que l'on vous donne. Et madame Argé, c'est la même chose ?
François lui dit : Oui, mais elle voulait m'aider pour le film.
Il lui demande : Vous êtes connu comment ?
Une soirée. Et c'est elle qui a voulu que j'aille chez elle.
L'inspecteur lui dit : Je vois bien. Et vous l'avez vu pour la dernière fois, quand ?
Le matin de son départ, mais j'ai pas assisté à son départ.
Elle est partie seule ?
Non, avec son chauffeur.
Bon, et que comptez-vous faire maintenant ?
Jean lui dit : Je suis un peu désemparé. Peut-être partir, quitter l'Amérique, Pour aller où?
Je ne sais pas vraiment. La disparition de mon ami m'a dérouté. Je ne sais plus.
L'inspecteur lui dit. Et restez ici. Ne bougez pas. Vous logez où?
On lui dit. Chez la personne.
L'inspecteur lui dit. C'est délicat, ça. Vous n'êtes pas de sa famille. Ça risque de créer des ennuis. Alors, allez, habiter ailleurs. Mais dites-moi où.
François lui dit. Je vais voir, peut-être, est-ce que j'irai habiter chez Tony Anglades.
L'inspecteur lui dit. Vous trouvez facilement à vous loger. Bien. L'enquête continue. Nous vous informerons si nous avons trouvé quelque chose. Vous pouvez disposer, monsieur Ducourt.
François se lève. L'inspecteur lui dit.
Je vous conseille, c'est de trouver du travail. C'est mieux chez nous. Ici, ce n'est pas la France.
Il retourne à la villa d'Elisabeth. Prévient les domestiques que la police lui a dit de quitter les lieux. La bonne lui dit « Comme c'est dommage !» Il fait ses bagages et part en voiture. Les bijoux sont toujours dans la voiture. Il va chez Tony. Il laisse ses bijoux dans la voiture. Il laisse ses bagages dans la voiture pour que ce soit plus correct. Il retrouve à la piscine. Il est en train de nager. Lorsqu'il le voit, il sort de l'eau.
Salut François.
Salut. J'ai besoin, c'est d'un service. La police ne veut plus que j'habite chez Elisabeth. Tony lui dit.
Bien sûr, tu peux reprendre ta chambre.
Merci. Je vais chercher mes valises. Et il va lui demande, est-ce que tu peux rentrer la voiture dans le garage? J'ai peur qu'on me la prenne.
Bien sûr.
À rentrer la voiture dans le garage, Tony est heureux. L'inspecteur fait son enquête. Il apprend que François aimait beaucoup aller dans les bars, boîtes de nuit, qui était invité à des soirées, dans les restaurants, qu'on l'aimait beaucoup parce qu'il était gentil, mais qu'il ne payait jamais, c'était toujours la personne qui l'accompagnait. Il parle toujours d'un film à faire, les gens ont donné de l'argent pour lui faire plaisir. Les femmes l'adorent, les hommes aussi. C'est leur petit François, leur bébé. On ne comprend pas pourquoi ce si joli garçon s'est mis avec cette vieille Elisabeth. Elle était toujours près de lui. Il apprend aussi qu'il avait des relations avec le coiffeur Tony. Et l'artiste sur le retour Eddie, disons PD aussi, connu comme PD. François aime les fêtes, danser, chanter. On lui offre de beaux cadeaux
même une belle voiture. L'inspecteur se dit que c'est sûrement un quelqu'un qui vit de ses charmes et peut-être d'autre chose. Il doit être surveillé de près. Peut-être qu'il s'est disputé avec sa bienfaitrice, qu'elle ne voulait plus l'aider, alors il l'a tué pour lui voler ses bijoux. Et puis, on ne sait rien de lui, sur sa jeunesse en France. Et pourquoi cette carte du ministre de la Justice? Demande des informations à l'ambassade de Paris pour savoir ce que ça veut dire. L'ambassade de Paris va voir le ministre de l'Intérieur au sujet de François. Et le ministre de la Justice en fait une affaire d'État, en réalité de famille. Il dit à l'ambassadeur d'Amérique, top secret, François Ducourt, faut pas le toucher, on n'en parle pas. Le ministre de la Justice bloque la chose. On ne dit plus rien. L'ambassadeur est prévenir que le ministre de l'Intérieur a dit qu'il fallait stopper les choses et qu'il devait prévenir le commissaire. Le commissaire se dit que François est peut-être
avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.